Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Je vous propose aujourd'hui de réécouter un reportage déjà diffusé en 2017, une immersion au cœur du bouddhisme tibétain en Midi-Pyrénées. Nous sommes dans les environs de Lavaur, au monastère de Nalanda. Une vingtaine de moines de nationalités très diverses, tous ambassadeurs en Occident des enseignements du Bouddha et de sa sainteté le Dalai Lama, s'efforcent en développant des valeurs de comportement éthique, de tolérance, de compassion et de sagesse, d'être une source d'inspiration pour les autres, par leur exemple et leur conduite.
Bonjour.
Martin, bienvenue, oui.
Voilà, il y a un autre moine qui était prêt à parler avec vous.
Entre-temps, je peux vous offrir un café
ou
un
thé. Volontiers, allez, ouais. Volontiers. C'est beau ici, c'est magnifique.
Oui, oui, c'est un endroit tranquille.
Bonjour.
Santé, Yann.
Marie-Pierre Pavlak.
Vous venez nous rendre visite?
Oui,
c'est
bon,
sympa,
oui.
C'est voilà. La première fois que vous venez ici?
C'est la première fois, oui, oui.
Ok. Mon don de moine, c'est en fait, ici dans la communauté, on va m'appeler Chodrak, mais ma mère ne va pas m'appeler Chodrak. Si quelqu'un vient en disant « Vous avez eu Chodrak », ma mère va dire « Je ne vois pas qui c'est ». C'est Yann, en fait, mon nom occidental, en fait.
Alors, Yann et Martin.
Et Martin, c'est ça.
Martin.
Oui.
Mais son nom d'ordination, c'est Ocel, qui signifie clair lumière, non? C'est ça? Oui.
Donc, ce sont toujours des noms tibétains que vous prenez lorsque vous êtes ordonné?
Oui, parce qu'en fait, ici, le monastère Nalanda fait partie de la tradition bouddhiste tibétaine, et notamment de l'école Gelugpa, qui est l'une des quatre écoles de la tradition bouddhiste. Et donc, en suivant la tradition bouddhiste, on est ordonné par des maîtres bouddhistes tibétains. Donc moi, j'ai été ordonné par l'abbé du monastère de Nalanda qui s'appelle Geshe Jampel. Et donc, à cette occasion, on prend un nom de moine qui est tibétain. Mais ça ne fait pas de nous des tibétains pour autant. Et Chodrak, c'est Dharma célèbre. Donc Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha. Voilà, mais donc c'est des noms en fait très jolis en général, qui ont un sens profond.
Vous avez employé un terme là que je viens de relever, que là j'ai bien compris, c'est abbé.
Donc l'abbé,
c'est,
oui,
donc c'est un terme qui, dans la chrétienté, on parle d'abbé aussi.
Oui, tout à fait.
Donc c'est la même signification.
Ça a le même sens en fait, ouais. C'est le directeur spirituel de la communauté en fait. Alors je ne sais pas si vous utiliseriez le même terme chez les catholiques, mais en fait...
C'est le père abbé, on
voilà.
Dit le père abbé.
Ouais. Donc là, on a l'abbé du monastère de Nalanda, qui est le Geshe Jampel. D'ailleurs, vos éditeurs n'ont pas les images, mais vous voyez ici, donc, il y a Lamazopa Rinpoche, qui est le fondateur de la FPMT. Et à côté, donc, on a une photo des deux maîtres tibétains résidents de Nalanda. Sur la gauche, on a donc Geshe Jampel, et à droite, Geshe Gyaltsen. En fait, pour la petite histoire, en fait, si le monastère Nalanda existe, c'est grâce à l'Institut. Pourquoi? Parce que Elisabeth Druquier me racontait qu'un jour, en fait, à cette époque, au début, c'était la première directrice de l'Institut. Donc, en fait, ils effectuaient des travaux de rénovation pour que l'Institut soit opérationnel. Et pendant les travaux, la tour qu'on appelle la tour ouest a pris feu complètement. En fait, il y avait des ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Et en fait, la tour a brûlé avec la bibliothèque, une partie des dortoirs, etc. Et donc, elle me racontait, en fait, ce jour-là, donc elle appelle Lama Yeshe au téléphone en disant « Lama Yeshe, c'est terrible. La tour est en train de prendre feu. C'est terrible. Tout part en fumée, la bibliothèque. » Et lui, il disait « C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. » Et en fait, pourquoi? Parce que pour la petite histoire, en fait, ils ont été remboursés par les assurances suite à l'incendie. Et plutôt que de refaire la tour, ils ont acheté ici, en fait. Et ils ont démarré le monastère grâce en fait à l'incendie qui a eu lieu à l'Institut Vajrayogini. Donc voilà, donc comme quoi des fois, ce qui paraît être négatif peut avoir des conséquences positives, puisque c'est comme ça que le monastère a été créé en fait.
Martin, Nalanda, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une signification, ce terme de Nalanda?
Alors, Nalanda, c'était en Inde, dans l'Inde ancienne, je crois que c'est à partir du 4e siècle jusqu'au 9e siècle, une université monastique. Qui a été établi par des rois et des gens qui voulaient soutenir le bouddhisme, donc c'était énorme. Et Nalanda, ici, ça s'est inspiré de cet endroit-là, parce qu'on se conçoit un peu comme une université monastique, donc vraiment un centre où il y a des études, où il y a des groupes de discussion.
Un monastère ouvert sur les laïcs, ouvert sur le monde.
Oui, ici, c'est vraiment un endroit très ouvert. On reçoit
des gens de partout, des jeunes, des personnes plus âgées, des étrangers, des Français ici, des laïcs, des moines qui viennent ici pour faire des études.
Oui. Et vous me disiez d'ailleurs que c'était un centre international, que la langue véhicule, c'était alors pas le tibétain, mais l'anglais.
Oui, tout à fait. Du coup, comme il y a relativement peu de Français par rapport à la population générale ici, la langue, c'est l'anglais, la langue la plus courante ici, oui.
Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu, il y a des moines, il y a des nonnes, il y a des laïcs. Comment ça se présente?
Mais écoutez, ça fonctionne très bien. Je dirais que le monastère Nalanda, c'est un bon laboratoire pour montrer qu'en fait, si on a la volonté de vivre ensemble et si on est basé sur le respect mutuel, malgré les différences à la fois de langue, de culture, il y a 20 nationalités dans le monastère, donc effectivement, chacun ramène son bagage culturel, historique, social au monastère. Et pourtant, ça fonctionne très bien dans une harmonie qui se voit, en fait. Et donc, c'est un peu un laboratoire vivant du fait de bien vivre ensemble, malgré les différences, justement. Et donc, ça, je trouve que c'est une expérience intéressante, en fait.
Mais des différences qui passent par le creuset du bouddhisme.
Oui, mais quand on parle du bouddhisme, c'est aussi plutôt les valeurs bouddhistes, donc les valeurs humaines, donc de respect, de tolérance, de compassion, etc. Donc ça prouve bien, parce qu'on voit bien que dans le monde, aujourd'hui, il y a plein de conflits entre les nations, et c'est basé sur quoi? Sur le sentiment d'appartenance à quelque chose de « moi, je suis différent de toi, donc je revendique plus » ou « je veux défendre mes propres intérêts ». Alors qu'ici, en fait, par exemple, Martine, il est allemand, Yael, elle est israélienne, on a des gens de tous les pays, enfin vraiment de tous les continents qui vivent à Nalanda. Et ça, on a même un moine bouddhiste égyptien. Je pense que ça doit être un des rares au monde à être un moine bouddhiste égyptien. Et malgré toutes ces différences, ça fonctionne bien, quoi. En fait, la vocation du monastère. En fait, quand Lama Yeshe et Lama Zopa Rinpoche ont fondé le monastère Nalanda en 81, ils ont voulu un endroit pour rassembler la communauté des moines. Donc c'était un lieu où les moines pouvaient vivre ensemble, de façon communautaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les moines ont un certain nombre de vœux. Il y a trois niveaux d'ordination chez les moines. Il y a Rabjung, Getsul et Gelong. En fait, on peut très bien commencer avec les vœux de Rabjung. Donc il y a 8 vœux, Getsul, 36 vœux, comme moi-même et Martine. Ou Gelong, il y a 253 vœux. Donc ça, c'est un moine pleinement ordonné. Donc en fait, nous, on est plutôt des moines novices, en fait, en tant que Getsul. Mais après, un moine pleinement ordonné, donc qui est un vrai disciple du Bouddha, un vrai moine du Bouddha, c'est un moine Gelong qui a 253 vœux. Donc l'idée, c'était qu'on ait un endroit, une communauté, pour que les gens puissent vivre avec un environnement qui permet au maximum de favoriser le respect des vœux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, Lama Yeshe et Lama Zopa se sont dit « Ok, c'est très bien, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'Occidentaux qui sont intéressés à la pratique bouddhiste, mais ça serait bien qu'il y ait ensuite des Occidentaux qui puissent étudier le bouddhisme pour ensuite pouvoir l'enseigner. » Et donc, c'est pour ça que souvent, on parle d'université monastique. C'est vrai qu'on associe souvent le terme de monastère à université.
Il faut passer par la connaissance.
Oui. Parce qu'en fait, on veut parcourir un chemin, il faut déjà le connaître. Ça serait comme de vouloir aller de Lavaur à Paris. On peut très bien aller de Lavaur à Paris en avion, en voiture, à pied, en cheval. Mais en fait, si on ne connaît pas le chemin, il y a de fortes chances qu'on puisse s'égarer. Donc en fait, on considère qu'à la base, si on veut pratiquer un chemin spirituel, il faut connaître ce chemin. Donc ça, c'est le but de l'étude. Et c'est la raison pour laquelle, quand Lama Yeshe et Lama Zopa ont fondé le monastère Nalanda, ils ont voulu calquer les programmes d'études des universités bouddhistes tibétaines, qu'il y a maintenant au Tibet encore et dans le sud de l'Inde, et les adapter en Occident. Donc les programmes d'études, le Basic Programme et le Master Programme, sont en fait calqués sur les programmes d'études des universités bouddhistes tibétaines du sud de l'Inde. Donc l'idée, c'est qu'ensuite, qu'on soit moine ou laïc, si on s'intéresse à la pratique du Dharma, qu'on puisse étudier quelque chose d'authentique, en accord avec vraiment la tradition bouddhiste, avec des maîtres qualifiés, puisque les deux maîtres qu'on a ici sont ce qu'on appelle des Geshe Larampa. Un Geshe Larampa, en fait, c'est le plus... Geshe, ça voudrait dire, on pourrait dire, docteur en philosophie bouddhiste, si on rapportait ça à un cycle d'études universitaires en Occident. Donc ça serait des... Pourquoi docteur? Parce que Geshe Larampa, c'est le plus haut titre de certification dans les cycles d'études bouddhistes tibétains qu'on peut trouver dans les monastères de Seradje ou autres.
Et vous, votre vocation ici, c'est l'étude aussi?
Oui, oui. Alors, Nalanda, on nous le répète souvent, c'est un lieu qui est... dans lequel on peut faire des retraites. C'est-à-dire que notamment l'été, ça arrive souvent qu'on ait des périodes de retraite, mais la vocation première du monastère d'Nalanda est consacrée à l'étude. Donc un moine qui vient d'Nalanda, par exemple, il a l'obligation au minimum de suivre un des deux programmes d'études, donc minimum 5 ans. Après, s'il a plus d'intérêt pour l'étude, il peut continuer avec le master programme, ça va durer 7 ans, donc il peut compléter 12 ans d'études.
Avec un vœu de stabilité, vous restez toujours ici, dans ce même monastère, ou vous êtes appelé à aller dans d'autres monastères, ou aller, je sais pas, dans le monde, prêcher des retraites ou...
Bon, en fait, l'idée, en fait, ça va dépendre de la vocation de chacun. On peut très bien, en tant que moine, décider de passer sa vie au monastère de Nalanda, et de se consacrer à l'étude, et puis, je dirais, à œuvrer pour le bon fonctionnement du monastère, mais après on peut très bien, selon ses aspirations, ensuite rejoindre des centres de ville, par exemple comme le centre Kalachakra à Paris, ou des centres qu'il peut y avoir en Allemagne ou partout dans le monde, pour pouvoir aider ce centre à se développer, pouvoir ensuite par exemple donner des programmes enseigner des programmes d'études comme qui seraient par exemple introduction à la méditation, découverte du bouddhisme ou des choses comme ça.
Là, nous sommes ici dans l'entrée du monastère.
Le jardin zen.
Et il y a du va-et-vient autour de nous. Oui. Je vois des personnes qui entrent, qui sortent. Alors, il doit y avoir des moines. Il y a aussi des laïcs. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment ?
En ce moment, c'est bientôt l'heure du déjeuner.
Midi passé, c'est l'heure du repas. Prier en commun. Repas végétarien, bien sûr, précédé de la prière. 20 moines vivent et étudient à Nalanda, mais également pendant la journée, 10 nonnes. Et puis également des bénévoles qui, pour certains, sans être bouddhistes pour autant, mais par amitié ou parce qu'ils ont trouvé là un accueil chaleureux et convivial, viennent donner un peu de leur temps. Qui pour l'entretien du jardin, qui pour la préparation des repas, qui pour les ateliers artistiques.
Et vous avez de la chance qu'aujourd'hui il y a plein de monde. Hein.
Pete, c'est le manager.
This is our director, everybody.
Tous sont bénévoles.
Bonjour. Hein.
C'est une belle brochette. Dominique.
Dominique, c'est la maman de François, l'étudiant français qu'on a vu. Elle est là pour 3 semaines, elle est venue faire de la peinture.
De moulin à prière.
Dominique, donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là?
Je dors, donc après j'essaye de faire des nuances pour que ça, il y ait des motifs qui ressortent plus que d'autres.
Mais voilà.
Pour changer un
mais
peu.
Pourquoi vous êtes ici?
Je suis ici pour aider, pour faire du bénévolat, pour rendre service, et puis j'aime bien la peinture.
Et vous êtes bouddhiste vous-même?
Pas du tout, non. Mais mon fils est ici, donc il m'a persuadée de venir faire du bénévolat. Et il était content que je vienne, donc moi aussi je suis heureuse d'être là, voilà.
Donc on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour pouvoir être ici. Vous n'êtes pas bouddhiste non plus ?
Je m'initie au fur et à mesure.
Oui.
J'aime bien l'esprit parce qu'ils ont le sourire. Alors déjà d'être au milieu des bouddhistes, c'est plaisant parce que leur présence nous pose. Donc c'est l'intérêt que je ressens, c'est d'être posée quand je suis là. Après, j'aimais la peinture, mais peindre toute seule, c'est souvent difficile. Donc, quand j'ai appris qu'il y avait un atelier peinture de Tsotsa qui pouvait les aider si je peins bien, ben voilà. Donc, je viens. Ils ont la gentillesse de m'accueillir alors que je suis pas bouddhiste. Après, je respecte ce qu'ils font. J'essaye de respecter les couleurs. J'essaye d'être présente à la prière, même si je sais pas la dire. Enfin, voilà. C'est pas... C'est un esprit, je dirais, d'amour pour autrui, quoi.
Donc là, on se retrouve à l'extérieur et juste en face, nous arrivons dans l'atelier, alors.
Tu vas voir. Faites attention, par contre, il y a du plâtre partout.
Sultrim.
Et ça veut dire quoi, Sultrim?
Moralité, éthique.
Vous pouvez me présenter votre atelier, ce que vous y faites et ce qui s'y vit aussi. D'abord, ce que vous faites ici.
Ici, c'est un des tasks, des commitments de Nalanda, c'est d'offrir des moules à tous ceux qui veulent faire des pratiques de tzatza.
Oui.
Et les moules de tzatza, c'est un peu ces moules en silicone, dont les personnes qui font la pratique mettent du plâtre. Après, quand c'est sec, ils le sortent, ils obtiennent une tata, que c'est celle-ci.
Une tata, qu'est-ce que c'est?
Une tata, c'est une représentation de Bouddha en deux dimensions seulement. Ce n'est pas tridimensionnel comme une statue, mais c'est toujours une représentation de Bouddha.
C'est pour mettre dans les temples, dans les maisons?
On peut les mettre sur l'autel, on peut les mettre offrir à des amis.
On peut les mettre chez soi. Chez soi, oui.
Mais surtout, ce qu'ils font les pratiques, c'est de les produire. C'est un peu comme s'ils faisaient des prières concrètes. Voilà, et ils en font beaucoup, parfois des milliers. On mélange l'esprit avec la manualité. Oui, voilà, c'est ça.
Une fois que nos artistes ont fait toutes ces réalisations, après on va ce qu'on appelle charger les objets avec des prières. Donc c'est la troisième partie de l'atelier qu'on va aller visiter.
Yann, ici nous sommes dans un monastère de tradition tibétaine,
oui.
Au cœur de la France profonde, on va dire.
Pas si profonde quand même. On est à 40 minutes de Toulouse.
Oui, enfin, j'ai l'impression d'arriver dans
un... Vous allez choquer vos auditeurs.
On est loin de la grande ville, loin de la circulation, du bruit. C'est très apaisant, très serein.
En fait, c'est la plupart des visiteurs, parce que le monastère Nalanda est ouvert aux visiteurs le week-end, pas la semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, s'ils venaient la semaine, ils ne pourraient pas visiter le temple. Puisque le matin et l'après-midi, c'est occupé. Donc, en fait, on conseille aux visiteurs de venir à Nalanda le week-end, et notamment le dimanche, parce qu'il y a des visites guidées. Alors, je ne fais pas de la pub pour Nalanda, mais c'est qu'en fait, la plupart des gens qui viennent, qui découvrent Nalanda, ils trouvent ce lieu très paisible. Bon, et c'est peut-être que, oui, c'est vrai, c'est un lieu qui est très paisible. C'était quoi votre question, pardon?
Alors, ma question, c'était la tradition Gelugpa, je suppose une tradition tibétaine,
oui.
Mais ici, l'enseignement que vous donnez, est-ce qu'il est occidentalisé pour pouvoir mieux le diffuser et mieux le transmettre?
En fait, comment dirais-je? C'est une bonne question. Depuis l'époque du Bouddha, tous les enseignements que le Bouddha a donnés, le premier enseignement que le Bouddha a donné, c'était ce qu'on appelait les quatre nobles vérités. La vérité de la souffrance, de ses causes, de la cessation définitive de la souffrance et du chemin qui mène à la cessation. Donc en fait, la première fois que j'ai lu un livre sur le bouddhisme, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut poser le fait qu'on puisse mettre un terme définitif à la souffrance? Donc, autrement dit, est-ce que la souffrance est un état de fait? Est-ce qu'il n'y a aucun moyen d'y remédier? Et le Bouddha dit non, moi j'ai trouvé un remède à la souffrance. Donc un remède à la naissance, à la vieillesse, à la maladie, à la mort, et à tous les types de souffrances que le Bouddha a énoncé dont on peut faire l'expérience dans la vie. L'incertitude, le doute, ne pas obtenir ce que l'on désire, être séparé de ce que l'on aime, la solitude au moment de la mort et l'abandon répété des corps. Ça, c'est tous les types de souffrances. Et le Bouddha dit non, parce que tout ce qui est produit dépend de causes et de conditions. Donc tout ça, ce sont des résultats qui dépendent de causes et de conditions. Si ces causes et conditions sont abandonnées, le résultat est abandonné. Donc à un moment, il a dit, on peut mettre un terme à la naissance, à la vieillesse, à la maladie, à la mort. Parce que nous, en général, on identifie l'être, la personne, au corps. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, si la personne meurt, il n'y a plus son corps, elle est morte, c'est fini. Donc ça, c'est plutôt une vue, on va dire, plutôt matérialiste. Mais en fait, si on est bouddhiste, on va dire qu'on va poser que le fait que la personne est composée de deux aspects. L'aspect matériel, l'aspect du corps, qui est lui plutôt... la matière, on va dire, est obstructive, alors que la conscience, elle est claire et connaissante. Donc on va dire qu'au moment de la mort, le support de la personne, qui est le corps physique, disparaît. Mais ce n'est pas pour autant que la conscience disparaît. Donc c'est pour ça qu'on pose la continuité de la conscience. Pourquoi? Parce qu'elles sont deux substances différentes. Et... Donc c'était quoi votre question? Ah oui. Mais en fait, tous les enseignements du bouddhiste en fait sont basés sur qu'est-ce que l'esprit, comment fonctionne-t-il et comment est-ce qu'on peut le transformer pour obtenir la libération définitive de la souffrance pour soi-même et pour les autres. Et en fait, depuis l'époque du Bouddha jusqu'à maintenant, ça reste encore d'actualité. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où, on va dire, on s'est plutôt affranchi des contraintes de la nature. Grâce au matérialisme, on a un bon niveau de vie, une bonne éducation, des loisirs, de la santé, en tout cas en Occident. Et en France, pas partout, ça c'est certain. D'ailleurs, ça prouve bien qu'il y a encore du chemin à faire, même sur un point de vue matériel. Mais ça ne suffit pas pour autant pour être développer un bonheur durable, fiable et quelque chose qui soit valable, en fait, qui soit vraiment, qui donne un sens vraiment profond à la vie, quoi. Et en fait, on en revient toujours à la base du bouddhisme. En fait, c'est comment l'esprit fonctionne et quelles sont les bases pour devenir heureux pour soi-même et pour les autres, en fait. Et ça reste d'actualité, autant à l'époque du Bouddha qu'il y a 2000 ans, 1500 ans, 1000 ans. Maintenant, on a vraiment encore besoin de tourner le regard à l'intérieur pour chercher les véritables causes du bonheur. Parce que si les véritables causes du bonheur étaient uniquement à l'extérieur, vu le développement matériel qu'on a aujourd'hui en Occident, on devrait tous être heureux. Et on devrait nager dans le bonheur en permanence. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que même si les conditions extérieures sont réunies, ça ne suffit pas. Si les conditions intérieures ne sont pas présentes, on ne peut pas être heureux non plus. Donc il faut à la fois les deux. Parce que si effectivement à l'extérieur, on n'a pas le support nécessaire pour l'éducation, pour sa survie, sa nourriture, etc., comme on peut le voir dans certains pays, on va faire l'expérience d'une souffrance physique. Mais en fait, en Occident, on s'aperçoit que les gens, ils ont plutôt une souffrance mentale. Par exemple, au travail, la peur, l'insatisfaction, etc., etc., quoi. Et donc, c'est plutôt des expériences mentales de souffrance. Mais ces expériences de mental, est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on a moyen d'agir dessus ou pas ? On s'aperçoit que oui, il y a des outils. Et cet outil, c'est la méditation. Et c'est d'identifier, encore une fois, les facteurs mentaux qui nous créent de la souffrance pour nous-mêmes et pour les autres, et développer les facteurs mentaux qui vont nous développer plus de paix, de bonheur, de compassion, d'amour, de sagesse, en fait.
En début d'après-midi, le directeur du monastère, Cyril, nous a rejoints. Il nous fait visiter les lieux, les bâtiments et puis le parc où, au milieu des stupas, drapeaux de prière, statues de Bouddha, demeure une statue de la Vierge Marie.
Une très belle statue qui était là au moment où les premiers moines sont arrivés au monastère, hein, donc on a décidé de la garder. Et aussi à l'entrée, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une croix de Jésus Marie dessus, donc qui est assez traditionnelle de la région, d'après ce que j'ai compris. Donc je trouve que c'est une très très belle statue. Donc on l'a mis ici. Avant, elle était dans la forêt, là-bas, près des cabanes. Ce qui était très bien comme lieu, mais maintenant qu'on a mis les cabanes, on a décidé après de la déplacer ici, un peu plus visible. Puis elle regarde le monastère.
Pour vous, quel sens elle a ?
Franchement, pour moi, personnellement, elle représente vraiment la pureté et l'amour bienveillant. Je ne sais pas, je ressens vraiment beaucoup de pureté quand je la vois. Il n'y a pas longtemps, en fait, l'année dernière, j'avais emmené des bénévoles à Lourdes. On était à Lourdes, en fait. Ils voulaient faire une sortie et ils ont voulu aller à Lourdes. J'y avais jamais été. Et vraiment, j'étais très, très touché par ce lieu. Je trouve que j'ai trouvé vraiment que c'est un lieu très, très spécial. Quoi.
C'est un lieu porteur aussi, oui.
Ouais, et particulièrement le lieu de Sainte...
Bernadette
Ciboulou, quoi, en haut. Vraiment, j'ai ressenti vraiment des choses très, très fortes dans ce lieu. Pour moi, c'est clair que c'est un lieu très spécial. J'ai eu le droit à la baignade. En plus, j'étais avec la robe, j'étais à y aller, puis ils m'ont fait rentrer. Et vraiment, ils ont été très respectueux. Ils m'ont dit OK.
Et heureux, certainement.
Ils étaient très heureux
de vous accueillir.
Ouais, ils m'ont dit de faire mes prières à moi, bouddhiste. Ah, oui. Et après, ils m'ont mis dans l'eau, ils sont ressortis comme ça. Et vraiment, cette journée a été très, très forte pour moi. Très
comme on disait tout à l'heure, si on est en vérité, on peut partager des moments de grande, enfin, de spiritualité ensemble et de vie, tout simplement. Hein.
Non, pour nous, de manière, c'est sûr que voilà, c'est des êtres voilà, précieux. Et...
C'est vrai que la France ou l'Europe est avant tout une terre chrétienne, catholique.
Yann.
Donc on ne peut pas non plus, c'est pas quelque chose qu'on cherche à occulter ou quoi que ce soit. Donc le fait qu'il y ait une représentation de Marie en plein cœur du monastère Nalanda, c'est aussi en accord avec le lieu tel qu'il était auparavant. Et c'est quelque chose qu'on doit respecter aussi pour les gens qui viennent visiter Nalanda, pour respecter les croyances des gens. Je crois qu'elle est à sa place ici en fait. Elle est à sa place. Donc il y a régulièrement des gens qui viennent des fois déposer des offrandes ou autres. Et c'est très bien.
Comme vous l'êtes vous ici aussi, vous êtes.
Oui, c'est ça, voilà.
Ah oui, j'espère.
Nous allons refermer aujourd'hui cette série de reportages, premier pas à la découverte du bouddhisme en Midi-Pyrénées. Je voudrais remercier très chaleureusement tous ceux et celles qui, avec simplicité et délicatesse, m'ont accueilli et ouvert leurs portes. Vous trouverez un grand nombre d'informations complémentaires sur les sites respectifs de Nalanda et de Vajrayogini. Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller les rencontrer.